Actu SF, les podcasts.
Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là à 10h du matin pour cette conférence. On est toutes et tous ravis, je pense. Donc aujourd'hui, on va vous parler YouTubeur, booktubeuse, une nouvelle façon de parler des livres. Donc avec nous, aujourd'hui, il y a une dream team du booktubing. On a donc Florian, alias Sailor Flow, qui vient de sortir Rouille, un premier roman de young adult, publié chez Screenéo et qui est booktubeuse. À ses côtés, Gaëlle, qui a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Lanila Books. À côté de moi, Patatra, pareil, booktubeuse, avec ses points lecture, je crois, dans sa chaîne vidéo. Et on a une blogueuse et une booktubeuse, Hélène Petit Elf. Voilà, super. Alors, on va ouvrir rapidement les hostilités. Quand j'ai annoncé sur Twitter les intervenantes à cette conférence, et après les effusions de joie, rapidement, la question du titre de cette discussion semblait poser problème. YouTubeur, booktubeuse, une nouvelle façon de parler des livres. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Flo, c'est leur Flo, qu'est-ce qui ne va pas?
Je m'y attendais un peu. Bonjour. C'est un... On le voit là, genre, on n'est que des femmes, déjà, à être venu sur cette intervention, parce que il y a cette connotation dans le monde de BookTube que ce sont des femmes qui parlent de livres sur Internet, et du coup en fait c'est un peu gênant d'avoir toujours cette différenciation entre les YouTubeurs qui vont être des hommes et les BookTubeuses qui vont être forcément des femmes, alors qu'il y a des BookTubeurs et il y a des YouTubeuses, et donc en fait on est juste tous créateurs de contenu et créatrices de contenu, et du coup c'était pas attendu, mais presque, et du coup c'était un peu dommage d'avoir fait directement ou même inconsciemment ce distinguo des youtubeurs et des booktubeuses, j'ai trouvé. Et je pense que j'étais pas la seule.
Patatra ?
Oui, en fait, déjà je pense aussi ce qu'on n'a pas forcément compris au début, enfin moi pour le coup, c'était pourquoi YouTube et BookTube ? Parce que finalement, après, bon, en y réfléchissant, est-ce que ceux qui ne connaissent pas BookTube auraient compris ce que sous-entend BookTube ? Mais après, c'était voilà, YouTube, BookTube. Et ensuite, finalement, le fait de genrer, même si je le comprends dans le sens on veut mettre fille et garçon, est-ce que c'était vraiment adéquat, ou est-ce qu'on pouvait juste mettre BookTube ou YouTube, BookTube, à la limite, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, et sans genrer forcément, parce qu'il n'y a pas forcément toujours besoin de genrer tout, je pense. Alors après, effectivement, sur BookTube, on est une grosse majorité de femmes. On accepte tous les hommes, hein, il faut savoir, c'est pas qu'on veut pas. Il y a quelques hommes, j'en vois un qui me fait coucou là-bas, salut Lucas. Mais c'est vrai qu'ils sont pas nombreux, hein, mais ça sera avec plaisir qu'on en accueille d'autres. Après, c'est comme dans toute communauté sur YouTube, la beauté c'est féminin, le gaming c'est masculin, pour autant voilà, il y a des minorités de différents sexes. Mais c'est vrai que je pense qu'au niveau du titre, c'était maladroit dans l'appellation, voilà.
Gaëlle.
Alors, je vais forcément rejoindre ce qu'elles disent. On est un peu en accord sur ce genre de choses. Moi, il y a juste le côté... YouTube, c'est très parlant sur... c'est des créateurs de vidéos. Puisque tout le monde quasiment connaît YouTube aujourd'hui. Après, ça compartimente beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, mais qui ne les font pas que sur YouTube ou qui ne les font pas sur YouTube parce que YouTube, c'est un service Google et du coup, c'est géant, etc. Donc c'est vrai que la mention YouTube ou juste mettre YouTubeur, ça implique que c'est des gens qui font des vidéos, mais uniquement sur YouTube aussi, alors que c'est pas toujours le cas. Voilà. Mais sinon après, sur les arguments, je rejoins complètement les autres.
Je suppose que Hélène, c'est pareil.
Moi en fait, ça m'avait pas frappé au début. J'ai vu qu'il y avait eu un débat sur les titres peut-être 2 jours avant de venir. Et je suis partie du principe que c'était peut-être plus pour expliquer à des gens qui ne connaissent pas BookTube que c'est la plateforme sur laquelle, enfin YouTube est la plateforme sur laquelle on parle de livres. Et après, pour quelqu'un qui est novice, qui va taper BookTube, il va tomber effectivement en majorité sur des booktubeuses. Donc ça ne m'a pas plus marqué. Après, je rejoins quand même ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'on a tendance à catégoriser en fait un genre de création de contenu par rapport au sexe. Mais finalement, comme tu dis, dans le gaming, il y a aussi bien des femmes. Dans la beauté, il y a aussi des hommes qui font des vidéos. Mais ça ne m'avait pas plus marqué que ça. Après, j'aurais peut-être, c'est une maladresse où j'aurais peut-être plutôt vu un titre plus élargi, pas que sur BookTube, mais également donc sur les blogs, sur Bookstagram, sur tous les nouveaux moyens maintenant sur lesquels on peut parler de livres pour notre génération.
Et alors, est-ce que c'est une nouvelle façon de parler des livres ?
Oui, je pense. Oui, oui, totalement. C'est une nouvelle façon. C'est, le public est assez jeune en général. Je pense qu'il y a des spectateurs de YouTube qui doivent avoir un peu moins de 15 ans qui vont nous regarder. Ça va aller jusqu'à 5 ans, voire plus. On est spontané quand on fait nos vidéos. C'est ce qui nous démarque aussi par rapport à des journalistes qui, eux, sont très professionnels. Nous, on n'a pas forcément de diplôme dans le domaine. On lit par passion et on essaye de transmettre, on essaye de donner envie aux autres de lire en expliquant ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et c'est plus authentique et c'est peut-être, ça touche peut-être plus de monde de ces moyens-là.
Gaëlle ?
Après, je pense que ça reste assez complémentaire à des choses qui se faisaient déjà avant. C'est une nouvelle façon de le faire, mais il faut toujours garder en tête que ça ne va pas devenir la façon de le faire exclusive, on va dire, puisque tu es bien placé avec le blog pour le savoir, c'est vraiment généralement en complément. On n'aborde pas les choses de la même manière, puisque les gens ne s'intéressent généralement pas aux vidéos et aux articles pour les mêmes raisons. Une chronique sur un bouquin va intéresser souvent quelqu'un qui veut un avis sur ce livre-là en particulier, ou qui suit avidement les avis d'une personne dont elle sait que les recommandations vont beaucoup la toucher. Alors que sur YouTube, on fait assez régulièrement, pour la plupart d'entre nous en tout cas, des vidéos qui réunissent plusieurs livres sur une thématique ou sur les dernières lectures qu'on a faites. Et les gens vont aimer le côté, je ne vais pas dire survolé de la chose, puisque ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas, ça peut être un avis assez rapide et concis. Et c'est aussi ça qui va leur plaire, parce qu'ils cherchent des idées, des recommandations, sans pour autant trop en savoir non plus.
Patatra.
Alors, une nouvelle façon de faire, en même temps, ça fait des années qu'elle existe. Hein, c'est juste que ça se développe de plus en plus. C'est toujours la même chose quand une communauté apparaît. Au début, on est un peu transparent. Et puis finalement, bah, nous, dans notre cas, les maisons d'édition, tout d'un coup, nous voient, se disent... parce qu'avant, ils connaissaient les blogueurs, parce que les blogs sont plus anciens, on va dire, en termes d'âge. Et puis tout d'un coup, ah, c'est intéressant. Et voilà. Donc après, ça se développe. Il y a de plus en plus de booktubeurs francophones. Et de plus en plus de choses qui sont proposées. Ça peut aussi être... parfois, on peut perdre un peu peut-être ce côté qu'on avait au tout début, un peu convivial, familial et tout. Parce que forcément, dès que ça se développe, il y a plus de monde. Donc ça prend de l'ampleur. Donc c'est nouveau, oui et non. C'est juste qu'on commence à parler de nous, surtout, maintenant. Et du coup... Et du coup, en fait, voilà, donc on commence à parler de nous. Après, effectivement, c'est les nouveaux médias, finalement, où on peut parler de livres, et aussi en même temps, parce que les médias à l'ancienne, entre guillemets, ben, c'est pas toujours évident pour tout le monde, et ben, même à la télévision, et finalement, il n'y en a pas tant que ça où on parle de livres, ou des livres qu'on aime, parce qu'après, la littérature blanche, littérature contemporaine, on va trouver. Mais sur la littérature de l'imaginaire, c'est quand même vachement moins évident. Et c'est vrai que YouTube, ça a ce côté vachement, comment dire, enfin c'est, enfin moi je fonctionne comme ça, moi je prépare rien au niveau des vidéos, je suis une grande flemmarde, j'ai vraiment la, mais je suis pas la, enfin je suis pas la seule, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui préparent les vidéos, il y en a qui font vraiment des comment dire, des synopsis, enfin voilà, des scripts, voilà, merci. On sent qu'il y en a qui ont plus les mots que moi quand même. Et donc du coup voilà, mais moi je, c'est ce qui me plaît aussi, et c'est pour ça que mes vidéos point lecture vont être à la Hooligan Beast to Fly quoi. Je suis vraiment là pour donner mes émotions. Après, je rentre pas, comme disait Gaëlle, dans du détail. Et je sais que on n'a pas le même public avec un blog. Un blog, on rentre dans le détail, on est là parce qu'on veut vraiment en fait connaître les points, le comment, enfin voilà, les personnages, les descriptions, les machins. Souvent en vidéo, on est quand même moins là-dedans. Même si ça peut arriver, ça dépend comment la vidéo est écrite, mais on est sur quelque chose un peu plus, voilà, qui est un peu plus punchy peut-être aussi. Après, il y a des personnes qui aiment les deux plateformes, parce que finalement, on ne retrouve pas la même chose. Et d'ailleurs, au début, on avait entendu BookTube va remplacer les blogs vont mourir. Non, BookTube ne remplace pas les blogs, on n'a pas la même chose, on n'a pas le même public non plus.
Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, Patatra, BookTube, effectivement, c'est pas récent. À savoir que parmi donc, les quatre qu'on est ici, je reprends les chiffres que Céline nous a donnés de l'appli BookTuber App. Moi, ma chaîne, je l'ai créée en 2011. Pour vous dire, ça fait un moment. Hélène, c'est 2012. Patatra, on est à 2014. Et Floriane, c'est la petite dernière, 2015. Mais du coup, ça fait pas, c'est pas l'année dernière qu'on s'est dit hey, on va faire des vidéos bouquins. Donc ça fait déjà un moment. On le faisait peut-être pas de la même manière au début. Mais ça existait déjà.
D'ailleurs, pourquoi vous vous êtes lancé, Lauriane.
En fait, je voulais rebondir sur ce qu'elle disait juste avant. En fait, c'est déjà chez nous, ça fait déjà 7-8 ans que ça existe, mais sur le booktube anglophone, c'est encore plus vieux. 2009. Et en fait, je pense que c'est toutes ces personnes-là qui ont commencé au tout début, qui avaient la vingtaine, qui étaient seules chez eux, qui n'avaient peut-être pas de gens avec qui parler, qui se sont lancés là-dedans. Maintenant, on va avoir 30 ans, on approche de la trentaine, et en fait, notre génération... c'est la génération actuelle, en fait. Du coup, c'est normal que la population qui a grandi avec ça ait envie de voir ça. C'est juste l'émergence liée, c'est culturel, quoi. On est la génération Y. La génération Y, maintenant, on est, on ne peut pas dire qu'on est dominant, mais on est la génération qui travaille, on est la génération... on est, voilà, il y a le remplacement naturel qui se fait. Et du coup, on apporte avec nous les choses qu'on a connues. Et on a amené les blogs, on a amené BookTube et tout ça, quoi. Donc, ça semble logique, en fait, que ça, qu'on commence à parler de nous. Puisque on est la force vive de la France. De la France.
Le nouveau monde, c'est ça?
C'est ça.
Alors d'ailleurs, pourquoi vous êtes lancées toutes les quatre dans le BookTube Game?
Ah, le BookTube Game. Moi, exactement, parce que je suis partie dans le sud pour mes études. Et je me suis retrouvée plus seule que la solitude, quoi. Avec personne qui lisait autour de moi, genre vraiment personne. Et du coup, j'ai commencé à traîner. Enfin, parce que moi, sur YouTube, je regarde que des vidéos gaming. Vraiment genre que ça. Et du coup, genre à un moment dans mon feed, il y a des vidéos de booktubeuses anglophones qui sont passées. J'ai fait ah mais c'est quoi ce truc là, genre c'est des livres, genre on peut parler de livres sur YouTube, improbable. Et j'ai fait mais c'est beaucoup trop bien. Et du coup, j'ai commencé à regarder ça, genre j'ai binge-watché des vidéos et tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais en fait, genre c'est des trop belles communautés, ils partagent sur leur passion. Ma passion c'est aussi ça. Je suis toute seule, j'ai personne à qui parler, je vais rencontrer des gens et je vais faire ça. Et voilà, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai rencontré plein de gens vraiment cool et c'est devenu des amis. Et c'était un passion et une passion et un plaisir, quoi.
Gaëlle ?
Alors, comment dire ? Moi, j'ai une formation et un métier qui me pousse à partager de manière communautaire. C'est-à-dire que je travaille dans la communication digitale et du coup, quand j'ai fait mes études, j'avais envie de créer... mon blog ou quelque chose dans cet esprit-là pour aussi me développer, développer mes compétences, avoir mon propre truc en plus du boulot où je faisais déjà un peu ce genre de choses. Donc j'avais un blog, j'ai commencé par un blog que j'ai créé suite à ma première venue aux Imaginales en 2011. Finalement, les vidéos ont commencé à ce moment-là aussi, en France en tout cas, et j'aimais beaucoup regarder les copines faire ça, et je me suis dit, mais et pourquoi pas ? Et ainsi de suite. Et tout simplement, j'avais envie de faire un peu pareil que les autres au début, on se plaît là-dedans, on a beaucoup de retours très amicaux en commentaire sous les vidéos, c'est des échanges qui sont très enrichissants, et c'est des choses qui font plaisir à vivre, et j'avais envie de vivre ça aussi, j'avais envie de faire partie de cette communauté, et je suis très fière d'en faire partie aujourd'hui.
Alors moi, c'était le moment de lose ultime, en fait. C'est-à-dire que je venais de me séparer, je devais rentrer chez mes parents, j'avais pas de boulot, je sortais de la fac, donc j'avais aucune expérience professionnelle. Je traînais en pyjama chez mes parents, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, j'ai toujours beaucoup lu, parce que je viens d'une famille où ça lit beaucoup. Et j'avais eu pendant la période de mes études où je lisais plus. Enfin, je lisais pour les cours, mais je lisais plus pour moi. Et il y a un moment donné, je me suis dit, bon, là, va falloir un petit peu te reprendre en main. Peut-être que reprendre la lecture, ça serait sympa. Et en fait, j'ai repris la lecture et en même temps... j'ai découvert les vidéos BookTube et pareil, un peu comme Flo, de dire ah mais en fait il n'y a pas que la beauté pour les filles entre guillemets, mais à l'époque finalement, parce que oui, mais alors oui, mais alors très 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 rapidement, hein, très rapidement, et surtout parce que déjà à l'époque c'était pas du tout la même ambiance par rapport à la communauté BookTube, l'ambiance communauté beauté, on va dire. Mais c'était de se dire, ah ouais, mais en fait, on peut vraiment parler de toutes les passions sur YouTube. Et à l'époque, on parlait gaming, beauté, mais alors le reste, je ne sais pas trop où c'était. Et du coup, je me suis dit, j'ai un appareil photo, j'ai du temps, je lis, pourquoi je ne ferais pas... Voilà, j'étais vraiment pas partie sur j'aurais plein d'abonnés, j'étais vraiment pas dans cette optique-là, j'étais... Même s'il y a trois clampins qui me regardent, ils sont très sympas, ces trois clampins, et je vais les chouchouter, ces trois clampins. Et finalement, ils sont un peu plus nombreux maintenant. Mais du coup, je ne pensais pas encore 4 ans après être toujours là et encore moins en parler et tout ça. Et ça, c'est génial. Mais c'est comme ça que j'ai commencé.
Et enfin, Hélène, alors ?
Moi, comme Gaëlle, en fait, j'ai commencé sur le blog. En fait, j'ai repris la lecture aussi en 2010, début 2011. J'ai découvert des forums comme Livre Addict, enfin spécifiquement celui-là, et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de romans de l'imaginaire, et du coup, c'est là qu'on découvre plein de titres, que nos piles à lire augmentent considérablement. Et du coup, j'ai commencé à parler sur forum. Ensuite, j'ai eu envie de créer un blog à titre vraiment personnel, en fait, pour me rappeler de mes lectures et puis pour développer aussi des compétences à l'écrit, synthétiser, avoir un esprit de plus en plus critique. Et puis, très rapidement, en fait, on a découvert, je te regarde toi parce qu'on a débuté quasiment en même temps, un petit noyau francophone de booktubeurs. Et du coup, ça donnait envie, quoi, de partager à son tour les vidéos, de pouvoir parler, de développer aussi la communauté et puis d'échanger vraiment. C'est aussi un défi parce qu'il faut apprendre à parler devant une caméra, il faut savoir poser sa voix, poser ses mots. Enfin, ça développe énormément de choses, BookTube. C'est aussi un gros travail, je rebondis juste au niveau du montage, au niveau de la préparation, qu'on prépare des vidéos, mais en parlant spontanément devant, mais c'est quand même une préparation physique, faire attention, le cadrage, la qualité d'image, etc., et de son. Et du coup, ça développe énormément de compétences. Et puis, enfin, moi, j'ai commencé comme ça. Et après, on se prend au jeu, on apprécie, on développe les liens amicaux, la communauté. Et puis après, on se retrouve à venir aux Imaginales chaque année parce que c'est la grosse réunion de famille.
Après, c'est un choix aussi de bosser beaucoup les vidéos d'une certaine façon entre justement la préparation en amont, le montage, la qualité de vidéo. Au début, c'était pas ça. Hein. Au début, c'était chacun son petite webcam d'ordinateur, et encore. Et puis, on parlait, il ne faut pas aller regarder les premières vidéos. On se fait chier parce que c'est long, on n'a pas de rythme, c'est horrible. On ne fait pas de montage, pas de coupage. Mais bon, c'était les débuts.
Moi, j'aimais bien aussi l'idée d'apprendre des nouvelles choses, genre sur le tas. Tu vois, comme ça, genre un peu à la mano, genre qu'on ne se prend pas la tête et on fait des trucs. Genre, je me suis découvert une passion montage. Alors, mes montages, ils sont nuls. Hein. Genre, je fais rien de ouf. Mais genre, j'adore faire ça. C'est ce que je préfère faire. Genre, oh, je vais aller enlever tous les que j'ai fait. Et du coup, j'ai enlevé 5 minutes de vidéo. Elle va passer sous la barre des 10 minutes. Elle va être trop bien, celle-là. Genre, je suis trop fière de moi. Même après 3 ans, je suis là, oh là là, j'ai fait un truc trop bien. C'est trop cool. Et genre, c'est un truc que spontanément, j'aurais jamais fait. Moi, du montage ou de filmer, c'est pas du tout ma formation. Moi, je fais des sciences et j'écris. Et là, en fait, ouais, c'était vraiment... Et après, on échange même entre nous. Et alors, tu utilises quel logiciel? Et puis, tu fais quoi? Et on apprend des choses, la colorimétrie, le machin, les sons, les machins. C'est hyper intéressant. C'est bienveillant et enrichissant. Et du coup, sur plein de domaines, ça apporte plein de choses. Et du coup, c'est vraiment trop chouette, quoi.
Oui, je peux juste en profiter, du coup, rajouter que pour ceux qui ne sont pas booktubeurs ou quoi, on a aussi un groupe donc, sur Facebook de booktubeurs. Justement, c'est un groupe d'entraide où on se réunit tous et puis on échange, comme tu dis, on s'échange des conseils, on se soutient, on s'encourage.
Et que réservé aux créateurs de vidéos, en fait. On n'est pas là pour faire notre pub d'une certaine façon ou communiquer sur ce qu'on fait dans le contenu, mais vraiment sur la façon dont on le fait, ou des fois sur le contenu, mais sur des thématiques, par exemple, le féminibook, ce genre de choses, donc les rendez-vous un peu mensuels qui peuvent se passer dans la communauté, mais pas sur « Hey, j'ai fait une nouvelle vidéo, venez la voir, c'est trop cool, je vais gagner des gens qui vont regarder des vidéos ». On est vraiment là sur de l'entraide, et d'ailleurs, on vérifie, ou je ne sais plus maintenant si ça se fait encore, je gérais le groupe à une époque, mais on vérifiait que chaque personne qui rentrait dans le groupe était bien youtubeur ou booktubeur, pour vraiment qu'on ne soit pas là pour une communauté de fans, finalement.
Est-ce que vous vous considérez comme des critiques littéraires ou des chroniqueurs de livres ? That is the question, Hélène.
Alors non, critique littéraire, clairement pas, parce que pour moi, quand on dit vraiment critique littéraire, il faut avoir les diplômes, il faut avoir vraiment un... Je le mets vraiment dans un gros professionnalisme. Après, je chronique des livres, mais je donne juste mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je peux transmettre, les thématiques qui m'ont touchée. Je vois dans mes avis, on retrouve souvent une ligne, en fait, où je vais parler de la structure, du style d'écriture, de l'univers, des personnages, tout ça. Mais non, c'est juste donner mon avis sur ce que j'ai pensé d'un livre.
Alors, critique littéraire, je suis trop cool, Raoul, pour ça, vraiment. Je vais être sûrement la plus... parce que tout le monde dit, ouais, on a évolué, on fait plus de trucs. Alors moi, je viens pas maquillée, en pyjama, je fais les vidéos quand... Enfin voilà, j'avoue que je suis très cool, Raoul. Bon, a priori, ça plaît à certains, donc ça va. Mais critique littéraire, non. Après, parce qu'en plus, je pense pas... moi, j'ai pas du tout de formation littéraire. Je suis sûre que je fais des fautes quand je parle, donc à mon avis, critique littéraire, je suis loin de l'être. Après, chroniqueuse, je sais pas trop ce que ça sous-entend dans chroniqueuse littéraire. Moi, je sais que je suis booktubeuse, c'est-à-dire finalement, je lis des livres et je viens en parler, je partage. Je partage personnellement tous les livres, que je les ai aimés ou non, parce que même de ne pas les aimer, ça arrive qu'on me dise « Ah, mais tu vois, t'as pas aimé pour ça ?» bah du coup ça me donne envie moi. Moi ça m'arrive régulièrement que les abonnés me disent ça en mode ouais mais comme toi t'as pas aimé ça, moi comme en général j'aime bien, et ben du coup je le lirai. Donc c'est pour ça que personnellement je parle de tout. Est-ce que c'est être chroniqueuse peut-être? Parce que finalement, on chronique, oui, peut-être les livres. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question du titre ou du rôle que je peux avoir, en fait. C'est vrai. Après, souvent, on peut nous cataloguer en nouveau critique littéraire. Et j'ai du mal avec cette notion de critique littéraire, en fait. Parce que finalement, je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour parler de mes lectures. Et en général, pour ma part, je parle vraiment en termes d'émotion. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Et des fois, c'est des trucs complètement cons. Hein. Pourquoi j'ai pas aimé ou pourquoi j'ai aimé. Et j'en ai conscience et je l'assume parfaitement. Donc voilà.
Florian.
Après, en fait, c'est parce que ces dernières années, on n'a pas mieux à lui cette étiquette de BookTube, les nouveaux prescripteurs de livres. Comme si on avait une influence folle sur les chiffres de vente. Alors, je pense pas. Mais je pense que nous, on est là parce qu'on a envie de partager, en fait. Comme on pourrait le faire avec une copine qu'on se croit, genre, au fait, est-ce que tu as lu tel livre? Qu'est-ce que tu as aimé, machin? Et on le fait comme ça. Mais comme, bah, du coup, on s'est, entre guillemets, un peu professionnalisé parce qu'on a pris de la visibilité, qu'on commence à faire des partenariats avec des maisons d'édition, il y a tout ce système de service presse qui se met en place. Bah, du coup, c'est vrai qu'on se dit, bah, puisqu'on commence à nous voir, c'est que ça doit marcher. Donc, c'est qu'il y a un intérêt pour les maisons d'édition de faire ça. Donc, peut-être qu'ils vendent. Mais je pense pas qu'on puisse se dire critique dans le sens où déjà on peut pas faire plus subjectif que l'écriture. C'est pas des maths en fait. On peut pas dire ça c'est cette solution est bonne ou pas bonne, ce livre est bon ou pas bon. C'est complètement subjectif. Moi j'adore Zola. Et en littérature on va vous dire que c'est le maître de la description et c'est pas parce que techniquement c'est bien que tout le monde va aimer. Du coup. Même pour des vraies critiques littéraires, il y a quand même une question de subjectivité qui se pose, dans quelle mesure ce que tu dis est absolu ou pas. Il n'y a pas d'absolu en littérature, on ne peut pas dire cette œuvre-là c'est un chef-d'œuvre point, et si vous ne l'avez pas aimé, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas possible parce que chacun a sa sensibilité. Un auteur ne va pas vous toucher tous de la même façon, vous avez chacun votre vécu. Et ce n'est pas parce qu'une personne va être touchée et une autre pas que ce livre-là n'est pas bon, c'est juste que ce n'est pas votre livre. Quoi. Et du coup, je ne pense pas qu'il faille absolument donner cette étiquette de critique ou de chroniqueur ou de prescripteur parce que. Un livre, c'est un livre, il aura son public, et si on n'est pas dans ce public-là, ben, c'est pas grave, ça dénigre pas ni le lecteur, ni l'auteur, ni le livre. Et du coup, je trouve ça dommage qu'on veuille nous catégoriser absolument, alors que nous, on est juste des gens à la cool, et on fait nos vidéos, on veut parler de livres, on veut partager, et on veut dire, purée, j'ai trop aimé ce livre, genre, allez lire Jean-Philippe Jaworski, c'est trop bien, j'ai trop adoré, mais ça se trouve, vous allez détester, et genre, on va se voir, et vous allez me dire, ben, en fait, genre, non, j'ai pas pu le lire, j'ai pas pu, et ben, c'est pas grave, en fait, y a pas de critique, y a pas. En plus, critique, ça fait très négatif. C'est pas, ça serait plutôt, ouais, ça serait même conseiller, c'est très connoté négatif. Et du coup, c'est dommage de vouloir nous imposer une étiquette alors que nous, on est juste là pour kiffer, quoi.
Gaëlle, peut-être rebondir.
Moi, j'ai du mal avec les termes chroniqueur littéraire et critique littéraire parce qu'en fait, je sais pas à quoi ça correspond. Je connais pas de critique littéraire, je connais pas de chroniqueur littéraire ou de gens qui ont ce métier-là. Je ne les connais pas personnellement. Voilà. Donc, c'est vrai que quand je me suis lancée moi, dans le blog, on écrivait des chroniques. On disait clairement qu'on écrivait des chroniques. Mais je ne suis pas sûre qu'on prenait ça de la même manière que les gens qui ont un métier chroniqueur littéraire. C'était plus un synonyme pour dire avis. Quoi. Enfin, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se range moins dans ces catégories-là parce qu'on a trouvé notre étiquette. Qui est BookTube, qui n'existait pas au début. Au début, on appelait pas ça BookTube, hein, c'est venu plus tard. Donc, moi, je ne me considère pas comme ça, parce qu'on a trouvé finalement un autre terme qui nous correspondait mieux. Et puis, c'est pas nos métiers, quoi, non plus. Donc,
on peut dire qu'il y a quelque chose de prescripteur aussi. Si vous dites que vous avez aimé un livre, il y a des fortes probabilités que les gens qui vous suivent ou qui écoutent vos goûts vont acheter le livre.
Oui. Oui, on a ce côté prescripteur. Pour autant, autant les critiques et les chroniqueurs, j'imagine que c'est des métiers, il y a vraiment des gens dont c'est le métier, autant les prescripteurs, c'est un métier, oui, un prescripteur, ouais.
Non, je ne pense pas que ce soit un métier, mais
Il y a ce côté-là, de toute façon.
Ah quand oui, tu donnes ton avis, Mais après, on n'en avait pas conscience au début, non. Et on en a conscience maintenant, parce que les maisons d'édition viennent de plus en plus vers nous, et parce qu'on nous le dit.
On nous l'a dit.
Ouais, mais comme on vient aussi de plus en plus vers nous pour nous offrir des livres, pour qu'on les lise, etc., bah, ça sous-entend bien une chose, même si on ne connaît pas les chiffres, c'est que d'une certaine manière, ça fait vendre. Alors, est-ce que ça fait énormément, enfin beaucoup plus vendre, je sais pas, mais c'est que d'une certaine manière, ça fait de la publicité, ça fait voilà, c'est de la visibilité. Et les maisons d'édition, je pense, voilà, se disent bien, et certaines en tout cas choisissent vraiment bien aussi les booktubeurs vers lesquels ils vont se diriger. Alors après, il y a ceux qui vont se diriger vers ceux qui ont le plus d'abonnés parce que comme ça, il y aura le plus de monde qui vont regarder. Et puis ceux qui vont finalement se dire, on va plutôt choisir ceux qui ont l'habitude de lire ce genre-là, peu importe le genre d'ailleurs, pour être sûr que leur public, ça les intéresse. Et finalement, c'est intelligent, hein, tout à fait intelligent de fonctionner comme ça. Après, ça peut être un piège pour des nouveaux booktubeurs parce qu'on se dit, ah, génial, j'ai des tonnes de livres gratos et tout. Et en fait, on se retrouve avec une pile de livres qu'on n'a pas le temps de lire. On est sous pression parce qu'on se dit, pas forcément de la part des maisons d'édition, bien que ça puisse arriver, qui nous rappelle, vous n'avez toujours pas lu notre livre. J'ai une vie, merci beaucoup. Je ne suis pas payée pour. Donc c'est vrai que on est, enfin, je veux dire, je suis, moi, quand je reçois des services presse, je remercie, c'est très gentil. Et en même temps, maintenant, moi, je le dis bien toujours en début de partenariat, c'est le lire en un mois, je ne peux pas promettre. Parce qu'au début, les maisons d'édition, c'était ça. Il faut le lire en un mois. Et je comprends pourquoi. Parce que le livre sort et qu'il faut en parler au moment de sa sortie. C'est le moment où il va le plus se vendre. OK. Le souci, c'est que, comme beaucoup, hein, moi, je bosse en 35 heures. J'ai du trajet pour aller au travail. J'ai une vie personnelle. Et ça, c'est un loisir, c'est une passion pour nous. Mais du coup, ça ne rentre pas, en tout cas pour ma part, dans ma vie professionnelle. Du coup, c'est du temps à côté que je prends parce que j'aime ça, mais si on compte en plus le temps pour filmer les vidéos, les monter, les mettre en ligne, il y a un moment donné, le faire dans le mois, c'est pas toujours possible. D'autant plus que finalement, il y a des fois, j'ai envie de lire ce livre, mais j'ai pas envie de le lire maintenant. Et j'ai pas envie de me forcer parce que je dois en parler. Me forcer, ça c'est un truc, alors c'est moi qui suis comme ça, mais c'est un truc à ce que finalement j'aime pas, j'en parle en mode j'ai pas aimé et que finalement l'impact soit moins bon que si je l'avais lu un mois ou deux mois ou trois mois après et que j'en aurais dit du bien parce que j'étais vraiment dans les bonnes dispositions pour le lire et que là du coup forcément on a des abonnés qui nous disent ouais tu m'as donné envie ou parfois quand on les présente qui nous disent ah bah du coup j'attends ton avis avant de l'acheter ou on a souvent ça aussi parce que il y en a qui se disent j'ai vraiment de manière générale les mêmes goûts que toi. Donc si toi t'aimes, j'aurais plus tendance à y aller. Et si t'aimes pas, j'aurais tendance à être plus mitigée. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils se calquent un peu parfois sur nous.
Et aussi le fait que nous on lit pas... Enfin, là, on parle de littérature de l'imaginaire. Et c'est souvent des maisons d'édition de taille plus réduite qui ont besoin de visibilité, qu'on ne va pas forcément trouver en librairie, qui vendent beaucoup en salon ou qui vendent en ligne. Et du coup, pour eux... Je pense que peut-être ils s'y retrouvent plus et ça va être plus important pour eux d'avoir une visibilité via nous. Ça va vraiment être plus impactant que pour des très grosses maisons comme Gallimard ou Flammarion qui, eux, de toute façon, ils vivront quoi qu'il arrive. Et au pire, ils en auront un qui ne se vendront pas, tant pis, qui ne va pas décoller. Mais ça ne va pas changer la face du monde pour eux. Alors que dans l'imaginaire, où déjà, on a un peu cette connotation de sous-littérature ou littérature pour enfants, pas sérieuse, machin. Du coup, il faut vraiment que le livre puisse être vu. Et on ait un peu cette vitrine parce que... Parce que c'est des littératures qui ne sont pas mises en avant en librairie ou ailleurs. Quoi.
Finalement, de parler de maisons d'édition que personne ou très peu de personnes ne connaissent et qu'on trouve qu'en salon, quasiment, ou sur leur site internet. Mais bon, il faut les connaître pour aller sur le site internet. Quoi. Et du coup, de dire, allez voir, allez regarder sur le site.
J'ai découvert cette maison-là, c'est voilà. Sympa.
Et finalement, les gens n'auraient jamais pensé avant. N'auraient jamais découvert avant, parce qu'il y en a qui ne font pas de salon. Ouais. Ils ne peuvent pas. Et
en même temps... ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que les blogueurs et les booktubeurs ont finalement pris la place entre guillemets des médias qui n'ont pas le temps ou l'appétence à traiter de la littérature de genre comme l'imaginaire, à part le Point Pop qui est mon média, bref. Mais sinon, il y a aussi cet aspect-là qui est là, c'est-à-dire qu'il y avait une place à prendre et que pour certains genres, c'est très très compliqué d'avoir de la télé.
Horrible. Je ne sais pas si quelqu'un a ouvert un livre ici une fois dans sa vie, mais pour trouver quelque chose qui n'est pas de la blanche ou du thriller, parfois quand ils sont de bonne humeur, c'est la croix et la bannière. Et alors que ils vont vous parler de Murakami, par exemple, qui, on va pas se mentir, écrit à 80% du fantastique, mais qui est classé en littérature blanche. Pourquoi ? en fait, toutes les œuvres majeures de science-fiction ou de fantasy, que ce soit Orwell, Asimov, même des classiques, Balzac ou des choses comme ça, ils sont tous rapatriés en littérature blanche. Enfin, on nous spolie complètement nos auteurs de référence. Vous ne les verrez jamais ni en bibliothèque ni en librairie dans les rayons de SF. Ils sont tous en blanche. Du coup, on n'en parle pas. Enfin, on s'est fait spolier.
Et, oui, ouais. Je sais plus, c'était quoi la question ? Ouf !
On parle de choses que les médias ne veulent pas parler.
Oui, alors oui, ça, je suis d'accord. En fait, de manière générale, on retrouve tellement tout sur YouTube, pas que pour les livres, des choses qu'on ne trouve plus à la télévision. Enfin, je pense qu'on est aussi une génération, la télévision, on la met de plus en plus de côté. Je ne dis pas qu'on ne la regarde plus, mais on la met de plus en plus de côté parce qu'on y retrouve plus ce qu'on a envie de voir. Et moi, les émissions culturelles à la télé, mais soit je m'endors devant, soit... Enfin, c'est pas, enfin, moi, ça me plaît. Enfin, ce n'est pas ce que je cherche. Et c'est vrai que du coup, pour BookTube, et notamment les littératures de l'imaginaire, mais pas que, littérature de l'imaginaire, littérature adolescente, young adulte, on ne va pas retrouver à la télévision. On magazine un peu, et encore... pas des masses, mais à la télévision, qui est quand même le média, on va dire, le plus grand que tout le monde a quasiment chez soi. Et moi, j'ai encore parfois, quand les gens me disent « Ah, tu lis, oui, je lis quasiment que l'imaginaire, mais ça m'arrive de lire autre chose. Ah non, l'imaginaire, non. Ah non, hop, pourquoi t'aimes ça ? On m'a déjà dit, pourquoi t'aimes ça ? Je sais pas, j'aime bien... et en fait, c'est parce que je pense qu'ils connaissent pas. Et j'avais une ancienne collègue comme ça qui m'avait dit ça et qui avait découvert quelques mois après Christelle Dabo, donc Les fiancées de l'hiver, en me disant ah oh, c'est génial. Je dis bah ouais, c'est génial. Hein, mais t'as vu, c'est de l'imaginaire. Hein, mais Christelle Dabo a aussi certains de ses bouquins en littérature adulte. C'est drôle, quoi. Enfin, c'est qu'à un moment donné, on peut pas. Déjà, si c'est mis en littérature jeunesse, ah là là, les adultes, hein. Ah bah non, vous avez pas le droit. Hein, c'est pas possible. Hein, vous avez pas le droit. Et littérature d'imaginaire, ben il y a encore un peu ce truc que ouais, mais bon, c'est un peu. Enfin, c'est un truc de geek, quoi. On est beaucoup de geeks, mais pas que. Mais c'est moins bien perçu. C'est moins bien perçu.
Gaëlle.
Moi, du coup, il y a ce côté... on a pris la place sur un média qui nous ressemble. C'est le média que nous, on consomme. Même si on ne faisait pas de vidéos, c'est potentiellement celui qu'on consommerait le plus. Parce que ça correspond justement à notre génération. Après, on se rend compte... Enfin oui, d'après les chiffres que toujours, on a reçus de l'appli BookTuber, c'est la plus grande tranche d'âge qui regarde les vidéos, on est sur du 25-44 quand même. 50% de ces gens-là, c'est les consommateurs de vidéos BookTube. Donc, on rentre tout dans ce cadre-là en termes d'âge. Donc voilà, on occupe la place sur un média qui nous ressemble. Et je pense que c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on y est. Au-delà tout simplement du fait que on n'a pas que la littérature de l'imaginaire n'est pas forcément sa place ailleurs. Quoi.
Et en même temps, le côté prescripteur, on peut aussi, et ça c'est intéressant de faire le lien avec les youtubeurs, où il y a aussi cette vision, ou peut-être ce cliché, et ça existe aussi, que certains youtubeurs sont très prescripteurs, gagnent beaucoup d'argent, sont même devenus millionnaires en fait avec ça. C'est une petite minorité, hein. Ils ne sont pas non plus énormes, il y en a peut-être 5 maximum. Mais il y a quand même maintenant cette idée de se dire, voilà, les youtubeurs, tu fais beaucoup de... En tout cas, moi, je le vois plus...
On va gagner du fric.
Voilà, c'est ça. Et puis, ça se voit d'autant plus dans les, on va dire, dans les secteurs qui rapportent de l'argent, que ce soit les jeux vidéo, l'e-sport, là où il y a de l'argent pour envoyer des gens suivre des compétitions, notamment des youtubeurs. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette image-là aussi, un peu maintenant, de se dire, avec YouTube, on peut gagner sa vie, on peut gagner de l'argent. Est-ce qu'avec les vidéos BookTube, on peut en vivre ?
Alors nous, à notre niveau, je pense parler pour nous quatre là, non, non. Personnellement, moi, ce n'est pas un objectif déjà, donc je ne vais pas le faire de la même manière que si je cherchais vraiment à gagner ma vie avec. Quoi. Si on veut gagner sa vie avec, il faut de la régularité, il faut de l'implication, il faut communiquer énormément, il faut démarcher un peu les gens. Enfin bref, c'est tout un processus. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Après, on sait que dans notre communauté, il y en a qui se sont lancés à plein temps dedans. Après, elles ne gagnent pas forcément, à ma connaissance. Hein, c'est pas des gens forcément dont je suis proche, donc c'est des choses dont elle communique publiquement, on va dire. Elle gagne pas forcément avec les vidéos en tant que telles. Ça peut être des interventions dans des ateliers, dans des médiathèques, ce genre de choses. Donc c'est en complément des vidéos, les vidéos les ont fait connaître et après elle s'appuie finalement sur la visibilité que les vidéos leur ont donnée pour toucher un public qui cherche aussi à comprendre ces nouveaux médias, etc.
Oui, donc non, actuellement, même les plus grandes bookubeuses francophones, parce qu'à l'étranger, elles en vivent. Hein. Aux États-Unis, il y en a certaines qui en vivent, hein, clairement. Mais nous, même les plus grandes bookubeuses francophones n'en vivent pas des vidéos. Contrairement à, on va dire, les Cypriens et compagnie, qui lui vivent ses vidéos et de placement de produits et compagnie. Mais elles ne vivent pas de leurs vidéos, par contre, effectivement, elles s'appuient dessus. Par contre, moi, ce que j'ai pu voir parfois, ce qu'on peut avoir avec des nouveaux booktubeurs, pas tous, heureusement, mais c'est que une des premières questions qu'ils vont poser, ils sont là depuis un mois ou deux, ils commencent, ça leur plaît, c'est comment on fait pour avoir des livres gratuits. Et là, en général, ça me fait... Parce qu'on se dit, est-ce qu'ils sont venus juste pour avoir des livres gratos ou est-ce qu'ils sont venus pour partager? Et je pense qu'on a toujours des personnes... alors, c'est gratifiant, on est d'accord d'être abordé par les maisons d'édition, il n'y a pas de souci. Mais on a des personnes, je pense, qui c'est comme toujours quand ça se développe, qui se disent « Ah ouais, mais on ne gagne peut-être pas d'argent avec BookTube, mais on gagne des livres. »
Donc pas du gain, mais le gain, ce n'est pas financier. Quoi.
Le gain n'est pas financier, voilà. Et on a des personnes qui vont faire purement par partage, qui vont commencer, comme nous, on a toutes commencé, mais on a commencé à des moments où c'était moins développé, donc forcément même les livres gratuits c'était oh là là mon dieu j'en ai reçu un, voilà. mais maintenant ils le voient parce qu'ils vont suivre les plus grandes booktubeuses et ils vont bien voir, ou même pas les plus grandes, même nous, enfin on nous suit, enfin moi j'en reçois quand même régulièrement, ils vont bien voir que j'en reçois et ils vont se dire ah ça c'est cool, j'ai plus besoin d'acheter de livres, mais finalement voilà, du coup on se pose toujours la question, et moi en général et notamment sur le groupe booktubeur de Facebook, j'ai tendance à dire mais vous venez pour quoi ? Vous venez pour quoi ? Si c'est juste pour avoir des livres gratuits, ça ne marchera pas.
Je pense qu'il y a avec les générations, enfin notre génération et celle d'en dessous, il y a beaucoup cette culture un peu de la gloire très rapide. Enfin, parce que moi, j'ai une de mes amies qui a un fils qui a 12 ans. Donc, j'ai mangé avec lui et je lui ai dit, alors, tu as 12 ans, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Et il m'a dit, mais véridique, il m'a dit, je ne sais pas, prof d'histoire ou youtubeur. Et j'étais là, genre, pour de vrai ? Et il fait « Ah ouais, ça a l'air vraiment trop bien chez mes genres. Enfin, tu te rends compte que en gaming, tu vas rester enfermé chez toi, tu vas devoir tourner 15 millions de vidéos, faire 15 millions d'heures de montage. C'est pas drôle, quoi. Ça a l'air drôle, mais je pense que c'est pas drôle. » Il y avait eu un article, je sais plus où, c'était sur Vice ou Slate, je sais pas quoi, qui parlait d'un YouTuber qui avait fait 1 million d'abonnés en un an. Et en fait, il disait « Il sortait pas de chez lui. » Il passait, il avait un planning de vidéos qu'il devait faire tous les jours des vidéos. Et en fait, il a dit, la seule fois où je sors de chez moi, c'est pour aller acheter un café en bas de la rue. Et ma meilleure amie, c'est la vendeuse, c'est la seule personne à qui je parle dans ma journée. Il sortait pas de chez lui. Et en fait, je pense qu'en fait, les jeunes qui voient ça, ils voient juste ce qu'on leur montre, en fait. Parce qu'on choisit ce qu'on montre aussi. Et tu dis, bah voilà, j'ai reçu tel livre de telle maison. Et tu te dis pas derrière, mais en fait, c'est le seul livre que j'aurai de l'année parce qu'en fait, j'ai pas demandé de SP, ou parce que je m'en fous, ou parce que voilà, j'ai juste été approché comme ça et que c'est pas mon but. Et lui, il se dit juste, oh, je vais faire des vidéos, je vais avoir plein d'abonnés, je vais peut-être avoir de l'argent. Et en plus, on va me donner des livres gratuits. Mais c'est trop bien. Alors qu'en fait, genre, tu vas gagner 30 centimes, quoi.
Hélène ?
Et puis, il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on se met quand même vachement à la pression avec les services presse. Alors oui, c'est une sorte de petite reconnaissance, mais derrière, on travaille aussi quand même pour les éditeurs. Alors moi, j'aime beaucoup, comme toutes en fait, hein, on aime beaucoup faire connaître les petites et moyennes maisons d'édition particulièrement, puisque les grosses n'ont pas besoin de nous de toute façon. Et donc, c'est sympa, mais derrière, effectivement, c'est une grosse pression, parce que quand on a des éditeurs qui sont exigeants, aujourd'hui, on en a moins sur les petites, ils sont quand même plus cool. Ils nous disent non, mais prenez le temps, justement, comme tu disais, lisez le livre quand vous êtes prêt, quand vous avez envie de le lire. Mais ça demande quand même aussi un engagement à respecter. Et c'est pas toujours évident de tenir ça. Et moi, honnêtement, j'ai des SP, j'ai du retard depuis plus d'un an, quoi.
Gaël.
Après, il faut pas oublier que si ça devient une activité à plein temps rémunéré qui nous permet de vivre notre vie, on n'est pas salarié, quoi. Donc du coup, il faut pas baisser en termes de rythme, sinon tu peux pas boucler ton fin de mois. Enfin, les gens voient le côté très édulcoré de la chose, justement. YouTube, c'est cool, mais si ça devient vraiment une activité à plein temps, ça peut être suant. J'imagine que ces gens-là font loin de 35 heures par semaine. mais voilà.
Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir le au niveau de la. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas encore de booktuber ou de booktubeuse qui a plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, pas en France en tout cas. Comment vous expliquez qu'en France, on n'a pas encore atteint ce gap ou voire même du million, alors qu'on peut voir, il y a plein de choses sur YouTube, entre la beauté, le sport, les jeux vidéo, on arrive souvent à des gros chiffres. Est-ce qu'il y a une évolution quand même? On voit une évolution au fur et à mesure des années, que ça monte de plus en plus.
Alors, Florian en a parlé un peu tout à l'heure. Je vais dire le mot. Moi, je vais parler d'élitisme littéraire en France. Parce que clairement, moi j'en suis persuadée, et je pense que je ne suis pas la seule, on a l'élitisme littéraire, on le voit encore assez, et BookTube c'est quand même jeune, même si la majorité donc des BookTubeurs, la moyenne c'est pas du tout l'âge de 16 ans, hein. La moyenne c'est 28 ans, l'âge des BookTubeurs. Donc, pour dire, on est plus proche de la trentaine que de la vingtaine. Mais on a toujours cet élitisme, en fait. Et parce que la plupart des chaînes BookTube sont sur du young adult, sont même sur de l'imaginaire. Y a très peu de chaînes purement thriller, policier, classique, encore moins. Après, il y en a un, mais il y en a très peu. Et finalement, en fait, ce qui est de plus, c'est ce qu'on retrouve donc moins ailleurs. Mais du coup, l'élitisme est là pour dire c'est moins bien. On parle de livres, mais c'est des livres. Romans de gare. Moi, j'ai déjà entendu ça. Et on va pas. Enfin, dans les médias, on va dire à la télévision, ils parleront pas de BookTube, même s'il y en a qui se sont un peu emparés de la chose sur France 2, notamment avec Bulled Up, finalement, et qui fait qu'elle parle effectivement d'un peu de tout, même si j'avoue que j'ai pas trop regardé, hein, pour le coup. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est je pense aussi que ça se développe depuis peu. Peut-être qu'un jour, on y arrivera aux 100 000 abonnés. Je crois qu'une des plus grandes booktubeuses, alors je ne sais plus laquelle c'est exactement.
Elle n'est pas loin.
Nine est à 69 000. Voilà, donc ça arrivera d'ici quelques mois. Elle dépassera certainement les 100 000. C'est un bien et en même temps, ça veut aussi dire il y a d'autres choses qui arrivent derrière pour les autres aussi. Ce que je dis, plus la communauté grandit, plus il y a d'opportunités, c'est cool. Et aussi, plus forcément, ça a quelque chose de plus professionnel et on perd ce petit côté peut-être familial qu'on pouvait avoir avant. Mais moi, je le dis et je l'assume. Pour moi, il y a de l'élitisme littéraire et on le voit assez en France, à mon avis. Et ce qui fait aussi que sur BookTube, c'est moins bien perçu.
Je suis d'accord. En fait, c'est hyper paradoxal parce que donc il y a cet élitisme littéraire qui fait que de par les médias traditionnels, il y a un dédain mais incroyable pour les littératures d'imaginaire. Et en même temps, enfin, on parle de la France, genre pays des lumières, la littérature, la culture, mais en même temps, ça a jamais été cool dans la cour de récré de lire. Ça n'a jamais été considéré comme une activité cool. C'est pas quelque chose qu'on a dit, oh, tu lis des livres, purée, t'as l'air trop cool, genre viens dans mon groupe, on va aller faire un truc ensemble, genre non. Pourtant, on n'encourage pas les jeunes à lire, on leur montre pas que, enfin, c'est pas quelque chose qu'on arrive à présenter comme une activité genre super cool. Et du coup, ils vont pas forcément avoir ce réflexe de se dire, je vais aller lire ou je vais aller chercher ce genre de choses sur YouTube parce que, le gaming c'est vachement plus vendeur, ils font des blagues, ils se mettent en scène, t'as des Squeezie, des Cyprien, c'est vachement plus drôle que parler d'un bouquin, quoi. C'est pas visuel, t'as pas d'image qui bouge.
Et en même temps, alors moi c'est une expérience purement personnelle et professionnelle, j'ai été 3 ans conseillère d'orientation psychologue en collège. Alors je sais, tout le monde a eu une mauvaise expérience avec les conseillères d'orientation, je le sais, ne vous inquiétez pas. Et en fait, quand je recevais les jeunes, quel que soit l'âge, hein, donc 6e, 3e, je leur disais, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à la maison? C'est quoi tes loisirs, tes passions? Il y en avait, ils me disaient, je sais pas... Puis je dis, je sais pas, tu lis un peu. Alors je croisais toujours les doigts pour qu'il y en ait un qui me dise, ouais, j'adore lire. Et bon, ça a dû m'arriver une fois en 3 ans, hein, je vous le dis tout de suite. Et en fait, il me dit, non, je lis pas. Et à chaque fois, je disais, ah bon, même pas des BD ou des mangas? Ah si, je lis un peu de BD et de mangas. Et en fait, c'est pour dire à quel point, pour eux, même lire des BD et des mangas, c'est pas lire, c'est pas la lecture.
Et du coup, ils vont même pas partager ça entre eux, quoi.
Eh ben non. Et ils me disent, ah oui, au CDI, à la bibliothèque, où ils en achètent. Enfin, je dis, bah oui, tu lis alors. Et moi, j'avais les gamins qui me regardaient, ils me disaient, ouais.
Ouais, avais bah oui, pas je pensé. Dis bien, il y a bien du texte. Alors, il y a des dessins, mais il y a bien du texte. C'est bien de la lecture. Pour moi, toute bonne entrée, enfin, il y a pas de mauvaise entrée dans la lecture. Que ce soit BD, manga, la romance, peu importe. On débute tous par un livre. Il y en a beaucoup dans notre génération, c'est Harry Potter. Il y en a, c'est Twilight. Peu importe, les gens s'arrêtent pas juste à cette lecture pour la plupart. Ils développent, en fait, leur goût. Ça évolue. Et voilà. Et ce que je veux dire, c'est que, on est sur un public collégien qui sont persuadés qu'ils lisent pas, qu'ils aiment pas lire. Et finalement, quand on leur pose la question, qu'on creuse un peu, ils lisent. Alors, je dis pas qu'ils lisent des tonnes, mais ils lisent. Mais c'est toujours le même souci, c'est que derrière, on va avoir des adultes qui vont leur dire non, mais c'est pas de la lecture. C'est pas de la lecture, c'est pas de la littérature, c'est pas de la lecture, c'est pas lire, quoi.
Après, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance de l'existence des vidéos de bouquins sur YouTube, encore maintenant. Ça se développe, mais il y a quand même encore et toujours des gens qui disent « Parle de livres sur Internet ?» ou « Tu fais des vidéos livres ? Mais tu fais quoi, en fait, dans tes vidéos ? Comment on peut parler de bouquins en vidéo ?» Parce que je ne sais pas si tout le monde connaissait BookTube, ici. Levez la main. Qui ne connaissait pas ? Voilà. Donc, est-ce que vous vous étiez imaginé qu'il y a des gens qui parlaient de livres en vidéo sur YouTube ? Voilà. Donc, il y a simplement une méconnaissance aussi du sujet, de l'existence de ces choses-là. Et comme ça commence un peu à émerger, ça va de mieux en mieux. Mais il faut aussi, maintenant que vous connaissez, vous pouvez en parler. Et ça fera aussi connaître les gens, faire grandir les communautés. Et ça pousse beaucoup, enfin nous on le voit dans les retours et les commentaires qu'on a, ça pousse beaucoup de gens à reprendre un bouquin alors qu'ils n'en ont pas lu depuis des années. Et lire, c'est tellement cool.
Hélène ?
C'était quoi la question ? Je voulais rebondir sur pas mal de choses et en fait, ça s'est enchaîné et je ne sais plus ce que je voulais dire et j'ai perdu la question.
J'en ai une autre. Donc, c'est bon. Comme là, on arrive, avant de passer aux questions-réponses, on va essayer d'en avoir deux, trois. Est-ce que vous pouvez toutes donner un conseil pour quelqu'un qui voudrait faire des vidéos BookTube ? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil ?
Qu'on peut déjà faire une vidéo avec un téléphone, tout simple. Et puis d'être spontané en fait, de dire vraiment ce que la personne a envie. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de préparation, il faut juste parler avec son cœur, je pense, sur ce qu'on a ressenti pour le livre. Et après, il y a des logiciels très faciles aussi, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire du montage, et gratuit, mais il n'y a pas forcément besoin de faire du montage, comme on disait avant, on faisait les cuts et compagnie, on ne connaissait pas, hein, ou alors on se levait, on arrêtait sa caméra, on s'asseyait, on refaisait, et puis on essayait juste de rassembler les morceaux. Mais c'était à une époque où faisait des des bruits trop bizarres pendant toutes les vidéos. Maintenant, ça se fait plus, mais voilà, il y a des logiciels gratuits qui sont impliqués, soit iMovie, qui sont intégrés dans les PC ou Windows, et qui sont très faciles à prendre en main, en fait, pour celui qui veut vraiment découvrir facilement.
Vous prenez pas la tête. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, on a toutes débuté avec des appareils photo ou des téléphones. Et encore maintenant, les téléphones sont meilleurs que ils font des super films, enfin des super vidéos. Faut pas se prendre la tête. Faut faire avec ce qu'on a en stock. Parce que des fois, je vois, ouais, mais faut que je m'achète un réflexe, faut que je m'achète une caméra. Oh là là, non, mais investis pas maintenant. T'es fou si ça m'a, enfin si t'as pas envie de continuer, si ça te plaît pas. Enfin voilà, faut pas investir immédiatement. Enfin, moi, j'ai investi dans certaines choses parce que ça me passionne aussi, mais que ça fait 4 ans que j'en fais. Donc forcément, j'ai acheté un micro pour que le son soit meilleur. Et aussi parce que j'ai des chiens qui font beaucoup trop de bruit quand je filme des vidéos. Et donc voilà, mais parce qu'on investit. Bon, j'ai pas investi les deux premières années, ça c'est clair. Et aussi, finalement, de pas se poser... Enfin, c'est pas forcément évident en début parce qu'on ne sait pas parler. Ça va se sentir, on n'est pas forcément à l'aise. C'est pas grave, ça vient au fur et à mesure, on prend l'habitude. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment pas se prendre la tête. Il faut faire comme on a envie de le faire, avec ce qu'on a sous la main. Et puis, ne regardez pas le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Si vous êtes là bloqué sur « je suis toujours qu'à 59 abonnés », mais en fait, ça vient avec le temps, ça vient avec...
Ça frustre, c'est un critère, ça frustrera.
On voit souvent, j'ai fait que tant de vues sur la vidéo. Alors, je comprends parce qu'on se dit, on a donné du temps, on a beaucoup donné, et puis finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas derrière le public, quoi. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment mettre ça de côté et juste se dire, on fait les choses pour soi, d'abord.
parce que, et pour les autres, parce qu'on veut partager, mais on fait d'abord pour soi. Donc pour ça, prenez-vous pas la tête si vous voulez vous lancer. Vous faites avec ce que vous avez, vous ne regardez pas le nombre d'abonnés, le nombre de vues, ça évoluera plus ou moins rapidement. Et après, bah, c'est aussi de parler avec les gens, avec la communauté. Et c'est finalement comme ça que vous vous ferez connaître, ou en salon, parler avec les gens. Et c'est là que les choses peuvent évoluer. Mais c'est clair que si vous êtes toujours sur les vues et les abonnés, ça ne donnera pas une bonne image en plus, pour le coup.
Gaëlle ?
Je pense, alors, je retiens la spontanéité, l'émotion, pas se prendre la tête, c'est déjà une très bonne base. Moi, j'aimerais ajouter, ne cherchez pas à copier ce que font les autres. Dans la mesure où il y a des modèles qui existent, qui sont bien des fois pour démarrer, les points lecture, des rendez-vous. Je veux dire, à l'époque, on appelait ça... c'est lundi que lisez-vous. Donc voilà, c'était bien pour démarrer puisque ça permet d'avoir un petit cadre et de se rassurer un peu au début. Maintenant, moi j'ai envie de dire, si vous avez une idée mais qu'elle est à l'opposé de ce qui se fait actuellement, faites-la. Allez-y, vous prenez pas la tête, ça rejoint encore ça, mais des fois c'est même comme ça que ça marche, si le but c'est que ça marche, etc. C'est vraiment dans la spontanéité et c'est être soi-même, se ressembler et faire les choses comme on en a envie.
Je peux juste intervenir. Je pense notamment en parlant de vidéos qui sortent, qui sont complètement décalées. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Céline Online où elle a repris une chanson en fait, sur Fouta Cagoule, mais dite classique, et elle l'a fait en collaboration avec Lemon June et Pico Books. Et c'est juste fantastique. Donc je vous conseille à tous, c'est lit ton classique. Et allez la voir parce que c'est génial, c'est un gros message qu'elle passe aux adolescents, à toutes les personnes pour les encourager. Et puis elles ont fait un travail de dingue et c'est complètement décalé. Et ça fait du bien parce que justement aujourd'hui on est plus de 400 ou 500 chaînes booktubeurs francophones. Et ça donne un nouveau souffle en fait parce qu'on retrouve très vite tous les rendez-vous. Et puis du coup on le sent dans nos chaînes que tous ces rendez-vous sont, il y a moins en moins de visibilité. Ce qui peut effectivement frustrer et d'avoir des petites vidéos comme ça... qui démarque, ça fait du bien.
Moi, mon seul conseil, c'est genre, lancez-vous. Alors, si vous avez envie de le faire, faites-le. Vous ne deviendrez probablement pas le nouveau Cyprien, mais dans tous les cas, je suis sûre que vous allez rencontrer des gens incroyables. Moi, ça fait 3 ans que je fais des vidéos et je pense que sur ces 3 années, certaines de mes plus belles rencontres, je les ai rencontrées sur Internet grâce à BookTube. Et genre, voilà, c'est des gens que maintenant, je vois tous les jours. C'est vraiment... c'est mes pipous, quoi. Et je les aurais jamais rencontrés si je m'étais pas lancée, si un jour je m'étais pas dit, vas-y, t'as peur, genre, tu peux pas te supporter quand tu t'entends, ta voix, tu la supportes pas. Mais vas-y, fais-le parce que t'as vraiment envie de le faire. Et je me suis lancée et c'est mon seul conseil. Vous voulez vous faire kiffer, lancez-vous.
Très bien. Alors, on a quelques minutes encore pour des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions à nos amis ici présents? Comment on envisage, comment vous envisagez l'avenir sur du long, plus ou moins long terme en tant que booktubeuse ?
Bah justement, c'est la question qui tombe bien parce que en fait, je suis à la conférence, donc je suis très honorée d'être là. Mais en fait, j'ai annoncé il y a quelques semaines que j'étais dans une phase où je voulais arrêter ma chaîne parce que je suis effectivement lassée, j'ai moins le temps, j'ai une petite fille qui a 7 mois qui demande du temps, donc du coup, c'est de la préparation. Et puis, j'ai été obsédée effectivement par les stats. Par un besoin de me renouveler. L'année dernière, en fait, en 2017-2016, j'ai commencé à retravailler là-dessus. Je disais, j'avais fait des formations sur Google pour essayer de renouveler ma chaîne. J'étais partie du coup à faire des avis, un avis par livre. En fait, moi, ce que je voulais défendre, c'était les auteurs francophones. Et je me disais, je préfère faire un avis par livre qui va parler, je ne sais pas, dernièrement, j'ai parlé de Alison Germain avec Le souffle de Midas, où je me disais, à la limite, ce n'est pas grave. Si j'ai 100 personnes qui regardent cette vidéo, je m'en fous. C'est moins grave parce que ces 100 personnes qui vont regarder la vidéo vont être intéressées par le livre. Mais finalement, après, je suis retombée à nouveau dans les stats, dans le fait que la chaîne n'évoluait pas spécialement, que j'avais de moins en moins de commentaires. Et ça, les commentaires, c'est hyper frustrant. Autant sur le blog, je regarde moins, parce que c'est comme un journal de lecture. Mais YouTube, c'est une interaction et on aime en fait échanger avec les gens, avoir des commentaires. Les likes, c'est pas suffisant. Le but, c'est vraiment d'avoir une discussion. Et moi, ça a été un cumul qui s'est fait sur plusieurs mois. Et j'ai décidé donc pour l'instant d'arrêter. Alors peut-être que je reprendrai, mais là, j'ai besoin de faire une grosse pause sur tout et de me reconcentrer juste sur mon blog et puis sur le plaisir de lire que je n'avais plus.
Moi, en fait, je vois pas. C'est pas que je vois pas. Enfin, si, il y aura un avenir, mais je sais pas comment il va être.
je fonctionne comme ça, et je pense que vous l'aurez peut-être un peu compris, parce que finalement, en fait, moi, je fais partie des personnes qui se disent, le jour où ça me prend la tête, j'arrête. Enfin, je veux dire, dans notre vie personnelle, que ce soit voilà, professionnel ou perso, on a tous des moments où ça nous prend la tête, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est notre vie. Et puis, ben, pour moi, c'est un peu la bulle, enfin voilà, ma bulle d'oxygène, parce que je m'éclate, parce que je partage, etc. Le jour où ça me prend la tête, mais je stoppe, quoi. Alors, pour le moment, ça va. Voilà, je passe des bons moments avec vous, je vais continuer. Mais ça se trouve, dans un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien, ça peut continuer longtemps comme moins longtemps. Et je me sens pas, de toute manière, dans l'obligation de continuer, parce qu'on a nos vies. Voilà, encore une fois, on n'est pas dans du professionnel avec BookTube, on est dans du loisir, de la passion. Donc, il y a un moment donné, ça ne voudra pas dire qu'on arrêtera de lire, ça voudra dire que ça nous prendra trop de temps, parce que voilà, ben, on peut, Hélène, elle a une petite fille, ça peut prendre du temps sur notre vie de famille, notre vie personnelle, et que finalement, ça devient plus compliqué, ou juste parce que du coup, on n'arrive plus à faire la part des choses, ou à mettre de la distance, comme disait Hélène, et à ce moment-là, c'est même plus agréable, en fait, de le faire. Donc, pour moi, c'est mon côté plaisir agréable, même si ça m'arrive de gueuler, je pense que ceux qui me connaissent le savent, c'est jamais méchant, je suis très impulsive, mais ça m'arrive de gueuler, mais après, au-delà de ça, je continue à le faire parce que ça me plaît, voilà. Donc, on verra.
Vas-y, Hélène.
Pas dénigrer les abonnés, je sais qu'il y en a certains qui sont là, que je remercie de toute façon, même si j'arrête, je remercie tous les gens qui me suivent depuis quelques années maintenant et grâce à qui, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai fait de magnifiques rencontres et que j'aime énormément. Voilà.
Merci pour la précision. Gaëlle, l'avenir, ça fait bientôt les 10 ans. Hein,
où est la boule de cristal?
En 2021, ça fera 10 ans.
Alors moi, ces dernières années, j'ai un rapport un peu différent avec ma chaîne. Enfin, les dernières années proches, d'il y a un ou deux ans, puisque j'ai eu une vie personnelle très mouvementée, très voyage, très changeante. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en second plan. Et en fait, je me suis déjà posé la question. Qu'est-ce que tu fais de ta chaîne? Tu la continues, tu l'arrêtes? Et en fait, je m'en fous. Je m'en fous de continuer ou d'arrêter. Je fais ce que je veux avec. Là, si je ne poste pas de vidéo pendant trois mois, ce n'est pas grave. J'en reposterai une la prochaine fois. Je serai contente de ma vidéo et ainsi de suite. Et en fait, je me dis pas, choisis. Tu as, c'est ton truc, c'est tes vidéos de toute façon. J'ai des gens qui sont autour de moi qui me poussent encore à en faire. Hein. J'en vois une là-bas au fond qui rigole déjà. Mais voilà, et j'ai des gens qui veulent m'aider en me disant, mais si t'as besoin, tu fais, on t'en fait ça, on peut faire des trucs qui changent et tout. Alors c'est super cool et ça donne envie d'en faire encore. Après, je pense que moi, je me suis lassée justement des rendez-vous un peu réguliers parce que ça ne correspond plus non plus à la façon dont je consomme le livre. Là je lis beaucoup de BD ou d'albums parce que j'ai une fois un abonnement médiathèque, mon dieu, tout ça à lire, et du coup je lis plus que des romans comme c'était le cas à une époque où voilà, 4 romans, 1 point lecture, alors là j'en suis maintenant bien loin, donc j'ai peut-être pas trouvé non plus la bonne formule, le bon format qui me convient pour reparler de tout ça plus régulièrement et je vais pas dire plus spontanément parce que ça reste toujours spontané, même si c'est moins régulier. Voilà, mais l'avenir est ouvert. Et il se passera encore plein de choses.
Oriane, le mot de la fin.
Pas de pression. moi, en fait, pendant très longtemps, j'ai dissocié le fait d'écrire et le fait de faire des vidéos sur YouTube, parce que je ne me sentais pas légitime, même si j'écrivais depuis longtemps et que je publiais, d'en parler. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler sur Twitter et sur Instagram et tout, je me suis rendu compte que ça vous plaisait. Enfin, à ceux qui me suivaient en tout cas. Et du coup, en ce moment, je passais par plusieurs transitions sur ma chaîne où au début, voilà, je suivais un peu les formats connus parce que c'était un peu rassurant de mettre le pied dans quelque chose d'un peu, voilà, un peu guidé pour commencer. Après, j'ai changé de nom de chaîne, donc je suis devenue Sailor Flow. Et là, je me suis vraiment trouvée où vraiment je me suis dit, ah, vas-y, mais en fait, ce qui fait kiffer, c'est genre le post-apo et les trucs un peu de SF vraiment un peu poussés. Donc, parle de ça comme t'en as envie vraiment. Et maintenant, comme j'ai officiellement fait mon coming out d'écrivain, on va dire, et que ça vous plaît, que je vois que c'est des vidéos qui vous plaisent, je pense que je vais faire plus de mix entre les deux et il y aura peut-être un peu plus de ça sur la chaîne. Après, je ne suis pas quelqu'un de régulier. Enfin, je pense que ceux qui me suivent le savent. Des fois, je vais faire 3 vidéos ou 4 vidéos. vidéo, ça va sortir, ça va pas s'arrêter. Puis après, pendant 2 mois, je vais plus être là du tout parce que ben, j'ai un boulot aussi, j'ai une vie. Puis j'écris à côté. Enfin, je suis pas écrivain professionnel. J'ai un boulot qui me fait 48 heures par semaine et à côté, j'écris aussi. Donc ça prend du temps. Et des fois, ben en fait, juste on est fatigué, on n'a pas envie. Et du coup, voilà, ça sort quand ça sort. Et pour le coup, je ne me prends pas la tête non plus. Au début, je me prenais beaucoup la tête. Au tout début, je me disais, en fait, genre, il faut que je fasse 2 vidéos par semaine ou 1 vidéo par semaine. Et donc, il faut que je trouve des sujets, il faut que je parle de ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, alors, je vais faire un book haul. En fait, les book hauls, ça me saoule. Du coup, j'en fais plus. Les points lecture, ça me saoule. Du coup, je regarde chez les autres, mais j'en fais plus non plus. Et du coup, voilà, je me mets pas la pression. Mais on parlera un peu plus d'écriture. Voilà.
Très bien. Alors pour vous retrouver, bah c'est assez simple. Il faut aller sur YouTube, je pense. Donc Floriane Soula, donc c'est alias Sailor Flo sur YouTube. Et le dernier roman, enfin ton premier roman s'appelle Rouille chez Scrineo. Gaëlle, la chaîne s'appelle Lani La Books. Hélène Titelf, on peut aussi encore regarder, on peut suivre le blog qui va continuer. Et puis encore les vidéos YouTube sont encore là. Et puis Patatras. Voilà, bah écoutez, merci à toutes. Et j'en profite aussi pour faire la promo du média pour lequel je travaille, qui est Le Point Pop. Et nous avons sorti un hors-série extraordinaire, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, vous pouvez le trouver dans la librairie. Merci à vous.